Puis quand on leur demande pourquoi vous vous restez, ils ont à peu près tout le temps la même réponse. Mais j'ai nulle part où aller.
L'Open Mic. Just in time for Open Mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'Open Mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
11h03 dans l'Open Mic qui a commencé en fait réellement dans les dernières secondes avec un extrait de quoi, de documentaire, Audrey?
Bien, en fait, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait que j'ai pris sur les réseaux sociaux de Martin Tremblay. Je ne sais pas si tu connais, photojournaliste à la presse depuis plus de 20 ans. Martin est reconnu pour ses reportages réalisés en terrain assez difficile, là, on va se le dire. Il a couvert plusieurs conflits internationaux. Il a remporté des prix. Il a été nommé dans toutes sortes d'affaires. Un vrai talent, si on veut, qui nous fait vivre un peu les conflits à l'international. Puis je tenais à vous faire un peu entendre un extrait, juste que vous compreniez... le milieu, un peu, dans lequel il travaille. Ça fait longtemps qu'on veut faire cette entrevue-là dans l'Open Mic.
Le genre d'affaires qu'il a pu voir.
Le genre d'affaires qu'il a pu voir, effectivement, parce qu'il s'est rendu, et là, j'en nomme juste quelques-unes de ces places-là, mais Syrie, Congo, Ukraine, Haïti, Israël, Afghanistan, pour, justement, être en terrain de guerre, de gros conflits. Il est aussi auteur, depuis peu, j'ai envie de dire, dans la dernière année. Donc, il y a beaucoup à jaser ce matin avec Martin Tremblay. Vraiment contente qu'on puisse faire ça, Martin, ce matin.
Oui, enfin.
Ça fait longtemps qu'on le prévoit. Ça fait longtemps qu'on en parle, des mois même.
On se croise depuis très longtemps.
Oui, oui, absolument. Là, on se voit enfin.
Une première date.
Oui, c'est ça. Non, mais on voulait pas faire ça à distance. Je pense que c'est le genre de sujet qui mérite de se faire en studio, qui mérite de se partager de la bonne façon. J'ai peut-être envie de commencer pour les auditeurs qui te connaissent peut-être pas, que tu nous parles un peu de toi, de tes ambitions plus jeunes. Tu pensais-tu faire carrière dans ça, prendre des photos? Puis pas juste prendre des photos en milieu de guerre à l'international?
Non. Mais je cherchais vraiment une genre de job qui allait m'amener à voyager, de l'adrénaline un peu, à découvrir le monde, mais aussi à... J'avais comme un côté missionnaire en moi, puis je savais pas comment l'exploiter. Puis c'était la... J'étais ado, donc moi, j'ai grandi ici à Sainte-Foy. Fait que j'étais ado, puis c'était la guerre en Yougoslavie. Puis c'était un fort moment pour le photojournaliste. Il y avait des grands photographes, James Natchway, tout ça. Puis là, j'ai comme fait « that's it », c'est ça que je veux faire.
Ah, c'est simple comme ça.
Oui, parce que j'ai tout de suite vu que ça réunissait tout ce que je voulais faire dans la vie. Mais là, ça a été un long chemin parce que là, c'est un métier qui est quand même compliqué et qu'il faut trouver la bonne place. Donc, je l'ai trouvé au Journal de la presse à Montréal qui avait les budgets pour me faire voyager et tout ça. J'ai abordé ça tout de suite. J'étais en Afghanistan en 2002 quand les Américains, là, après le 11 septembre, là, ouais, qui ont pris pouvoir ou qui ont délogé les talibans. Je me suis rendu là en partant. Puis c'est comme ça que j'ai parti une carrière de photographe de guerre, mais tu sais, je fais pas ça à journée longue parce que c'est trop exigeant. Là,
mais c'est ça, j'allais te demander, qu'est-ce qui te fait triper là-dedans? Parce que la photo, c'est une chose, c'est créatif, c'est je saisis. Mais en milieu de guerre, je veux dire, c'est de la misère humaine, là.
Oui. Au début, je cherchais plus l'adrénaline, tout ça, quand j'étais un jeune adulte. Mais assez rapidement, c'est vraiment les victimes, tu sais, la souffrance que tu dis. Mais en même temps, tu sais, mon rôle, c'est d'être témoin puis documenter. Mais la partie de témoin, là, si on ne parle pas des guerres, ils tombent dans l'oubli. Puis le pire qui peut arriver dans un conflit, c'est qu'ils tombent dans l'oubli. Puis je mets tout le monde au défi. Ce matin, on suivait la guerre en Ukraine il y a 3 ans de façon quotidienne. Oui. Ça venait nous chercher.
Oui, t'as raison.
Aujourd'hui...
Il y a encore des frappes, puis on n'en parle plus tant. Hein?
Oui, à tous les jours. Oui. Il y a autant de victimes qu'au début. On a une lassitude. Ma job, c'est de vous en parler aujourd'hui, puis de juste ramener ça, puis d'en parler. J'ai développé une série de romans jeunesse, justement, oui, pour aller chercher un nouveau public à ça. Puis la chance que vous me donnez aujourd'hui, c'est de ramener ces histoires-là, puis de les faire vivre encore, parce que ma job, c'est ça, c'est de donner une voix aux victimes qui sont anonymes, qui sont au front en ce moment, que ce soit au Congo, j'étais là en juin dernier, tu nommais tous les conflits, c'est un peu toujours la même histoire. Puis les victimes d'une guerre, vous savez c'est qui, hein? C'est les femmes et les enfants. C'est les principales victimes. Fait que c'est de donner une voix à ces gens-là, puis de faire vivre leur histoire, puis juste nous sensibiliser à ça.
Mais je le trouve bon parce que je trouverais ça dur sur le mental.
C'est tough. Ouais. Oui. C'est, on, c'est, dans mon cas, je suis chanceux, mais plus j'en fais, plus je laisse des petits morceaux à chaque fois sur place. Je sais pas, je vais le faire encore super longtemps, mais ma santé mentale va super bien.
Mais t'as l'air bien. Oui. T'es pétillant.
Mais je peux vous dire que la deuxième fois que je suis venu d'Ukraine, Max, j'ai perdu du poids, j'ai trouvé ça tough. C'était tough, les crimes de guerre, les gens torturés, cassés. Mm. C'était des histoires qui n'avaient aucun sens. Puis, tu sais, nous, on est témoins de ça, on est une éponge. Ces émotions-là, même maintenant, on les capte et on les sent. Puis j'ai eu plus de difficultés.
C'est-tu les pires affaires que tu as vues ou c'est juste qu'à un moment donné, l'accumulation fait que c'est sûr que ça finit par déborder?
Je te dirais que oui, parce que, tu sais, souvent on va dire photographe de guerre, un cadavre. Mais un cadavre, c'est terrible, mais il est mort. Il bouge pas, c'est quelque chose d'inerte. Mais quand tu as une femme, des enfants qui sont brisés, puis qui sont brisés pour la vie...
Ils sont en détresse.
Qui te racontent leur histoire, qui sont en détresse, Audrey, tu as raison. C'est là que moi, ça vient me chercher.
Je suis curieuse de t'entendre sur ton arrivée en Ukraine. Ça a été quoi tes premières impressions? Si tu nous fais voyager un peu, là, justement, ouais, dans ton quotidien. Là.
Bien, ça, c'est fou parce que quand moi, j'arrive dans un pays comme l'Ukraine, combien de gens vous pensez qui sont partis dans les deux, trois premières semaines du conflit en Ukraine? C'est un chiffre là,
fou. Ah, mais ça doit être astronomique comme chiffre, ben oui.
4 millions.
4 millions? Oh! J'allais toi, t'es en sens inverse.
Vous sortez du centre Vidéotron, c'est 20 000 personnes.
Ouais, à peu près.
La ville est jam-pack, il y a le stationnement, il y a du trafic. Ça, c'est juste 20 000. Imaginez 4 millions en quelques semaines. C'est des centaines de milliers par jour. Moi, j'arrive avec ma valise, à sens contraire, d'un fleuve humain qui dévale vers la Pologne. Puis moi, j'étais à contresens, puis tout le monde me dit...
T'es-tu correct?
Tu vas où?
Mais oui.
On est seul. C'est ça, ma job. C'est quand tout le monde fuit, moi, j'arrive.
As-tu peur pour ta vie où le code est assez clair qu'on touche pas aux journalistes que...
Oh non, Max, oublie ça. Les Russes, ils nous tirent dessus, c'est nous voient. Hey! On n'a plus de signes de presse ou rien sur les véhicules. Ils ont tué beaucoup de journalistes en Ukraine. Ben,
c'est vrai, on a entendu parler de ça.
Gaza, on est rendu à 225 journalistes tués depuis le début de l'offensive israélienne.
C'est free for all.
C'est fini, ça, là, l'histoire de « on touche pas aux journalistes ».
Fait que vous vous identifiez pas du tout.
On peut dire ça. On se fait très discret. On fait très attention de ne pas être identifié parce qu'ils veulent pas qu'on soit là, fait que, surtout les Russes. Alors... si j'ai eu peur à ma vie, oui. Comme je veux pas prendre trop de temps, mais au Congo,
on en masse de temps,
en juin dernier, j'entendais de la musique dans une église, dans un village, puis on savait que c'était une région qui a un groupe, bon, ça ne va rien vous dire, là, mais ça s'appelle les Walendas. C'est un groupe armé qui, eux, se finance par le kidnapping. Un blanc comme moi au Congo, je vaux 200 000 US.
Oh mon Dieu, Seigneur!
Fait qu'on était deux, donc mon collègue Vincent Larouche et moi, donc c'est 400 000. On est dans l'église et les Walendas débarquent. C'est un enfant qui a prévenu notre chauffeur qui était resté à l'extérieur, qui a dit les Walendas sont là. Fait qu'on a dû faire une évacuation, demander au curé d'embarquer avec nous, puis on a réussi à s'en sortir. Le kidnapping, là, c'est la pire affaire. T'sais.
L'as-tu déjà vécu ou tu as pu l'éviter?
Je veux vraiment pas. Mais tu sais, pendant longtemps, beaucoup de journalistes se sont fait kidnapper, comme en Syrie, par les islamistes. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les journalistes sont habillés avec une veste orange puis ils se font trancher la gorge.
Ah, ça m'est familier,
oui. Il y a des cas célèbres de journalistes américains. Donc, en Syrie, j'étais là en décembre dernier quand le régime de Bachar al-Assad est tombé aux mains des islamistes, les mêmes qui faisaient les kidnappings, qui me donnaient la chienne sur les routes. Donc, ils sont là. Les rebelles m'invitent à aller prendre le thé avec eux. Fait que je suis assis, je prends le thé autour d'un feu. Et là, ils viennent de prendre la ville. La ville est tombée, ça fait 24 heures. Puis là, je me dis, merde, c'est ces mêmes islamistes-là qui m'ont donné la chienne pendant la majorité de ma carrière. Je suis en train de prendre le thé avec eux. Là, j'ai fait...
L'ironie, hein?
C'est vraiment ironique. Puis en même temps, j'ai comme eu peur. J'ai fait, sais, ces gars-là, ils auraient pu me kidnapper là, 2 semaines. Mais là, ouais. comme ils ont gagné la guerre...
ils sont dans un bon mood,
oui,
ça va bien.
Oui, ça va bien, mais c'est comme prendre le thé avec un psychopathe. Là. C'est comme, tu sais jamais quand est-ce que la situation peut virer de bord. Mais on parlait, ils me parlaient de leur affaire, ils me posaient des questions sur le Canada, puis ça a été... un moment marquant et drôle
pour moi. Mais ouais. ton entourage, ta famille, ils aiment ça, eux autres, que tu partes de même. Puis ça t'a jamais freiné. Moi, tu me racontes ça, puis je me dis, hey, je trippe de t'inviter ici ce matin pour qu'on en parle.
Mais tu sortirais
jamais
pas
avec moi.
OK, bon, mais notre date, Max, je pense qu'elle vient de
finir. Il n'y en aura pas de deuxième.
Mais le pire, c'est que je trouve ça... fascinant. Puis je pense que ce qui me permettrait de te dire aujourd'hui que je te suivrais, mettons, là, dans ta job undercover, mettons, OK? Mettons que je pense que c'est l'ignorance parce que j'ai une barrière qui fait que je pense que je peux pas comprendre ce qui se passe là-bas.
Ouais.
J'ai le sentiment qu'on devient un peu insensible à ça. Puis ça, je veux qu'on l'aborde tantôt parce que je sens qu'on on a tellement d'images aujourd'hui de toutes sortes. On a tellement d'accès avec les réseaux sociaux qu'on a comme plus ce filtre-là. Là. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis.
Non, absolument. Tu sais, il y a plus d'un milliard d'images qui sont publiées sur Instagram tous les jours.
C'est fou, là.
C'est fait qu'on est bombardé. Bon, mais, tu sais, en fait, c'est qu'on devient aussi, comme moi, quand je me rends sur place, c'est ça, je deviens un communicateur. J'utilise la photo, les romans, je viens vous en parler ici aujourd'hui, tu sais, des documentaires, la télé. Ça fait que ça fait en sorte que le sujet, on le fait voyager, puis on ramène les gens vers mes images. Ça fait qu'on communique différemment. Mais ça reste que le sujet est super important. Puis il faut dire aussi, c'est comme... parce que là, on parlait d'Ukraine. Quand on est sur la ligne de front en Ukraine, il n'y a pas beaucoup de journalistes là. Il y en a dans le pays, ils vont rester plus loin pour la majorité, pour toutes sortes de raisons. Mais tu sais, comme moi, j'ai fait la bataille de Bakhmout, c'était épouvantable. Tu sais, j'étais dans les dernières heures avec l'armée ukrainienne avant qu'elle tombe aux mains de l'armée de Vladimir Poutine. C'était une guerre totale. Tu sais, tu mets ça en noir et blanc, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Là.
Mon Dieu Seigneur. Puis toi, tu vois tout ça. Tu vois, c'est...
Mm-hmm.
Je m'excuse, ça va être cru, mais les cadavres, les tout... Tu toxes.
Oui.
Excuse-moi, t'as pas de choc post-traumatique? T'as pas de... Tu sais, on parle souvent de nos militaires, mais tu vois ça aussi, là?
Je pourrais en avoir, tu sais. Je pourrais, mais j'en ai pas encore. Fait que c'est faut faire attention.
T'es pas à l'abri que ça arrive.
Non. Faut vraiment pas que je me mette dans la tête que j'étais à l'abri. Mais faut faire attention. Puis c'est ça, il faut... Bien, tu sais, le choc post-traumatique, si tu te prépares avant, tu sais, tu peux pas l'éviter, mais tu peux avoir des conditions à pas l'avoir aussi, là. Tu sais, moi, je m'en vais là, tu sais, je suis pas... C'est pas moi qui est ciblé directement. J'ai ma caméra aussi, tu sais. Je pense à ma sécurité.
Je prépare mentalement.
Ben oui, c'est ça. Puis j'ai tellement de choses à penser sur le terrain, comme ma sécurité, la sécurité de ma collègue. Tu sais, comme, pensez-vous que si je suis blessé, j'appelle le 911?
Mais non, hein?
Bon, mais
c'est vrai.
C'est moi qui me soigne.
C'est des choses à penser.
Moi-même. Puis je dois sauver la vie de mon collègue doit me sauver la vie. Puis si on appelle ça en termes journalistiques des fixeurs. C'est comme on a toujours des guides locaux. Tu sais, un chauffeur qu'on appelle fixeur, puis l'autre, il va nous traduire de la langue locale.
La barrière, la langue, c'est ça, exact. Chose,
fait qu'on est toujours à peu près 4 ou 5 personnes. Fait qu'on est responsable de ces gens-là au niveau sécuritaire et au niveau santé aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut se débrouiller nous-mêmes. Fait que la voiture, ce qu'on loue, c'est notre ambulance. Fait que c'est ça, on prend des risques, mais tu sais, on ne va pas se mettre devant les balles parce que, tu sais, notre sujet, c'est toujours les victimes. Ce n'est pas nécessairement la guerre, la bataille d'aujourd'hui. C'est d'avoir un pas de recul puis d'essayer de faire comprendre aux lecteurs de la presse c'est quoi la réalité, qu'est-ce qui se passe de façon globale.
C'est quoi étant donné que les journalistes ne sont pas nécessairement le bienvenu, comment tu gagnes la confiance des gens que tu photographies des victimes dans un contexte aussi sensible?
Bon, ben là, on revient à l'Ukraine. En Ukraine, les Russes, je leur ai pas parlé. C'est comme on voulait pas se faire voir 2-0. Ouais. Là, c'était trop dangereux. Bon, du côté ukrainien, quand les Ukrainiens nous voient arriver sur la ligne de front, ils font c'est malade, là. Ils sont tellement respectueux. Ils pourraient nous donner n'importe quoi. Ils nous prennent en charge. Ils sont honorés qu'on soit là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire entendre.
Mmh.
Ils veulent...
Ils ont besoin de vous.
Crier au monde entier ce qu'ils vivent. Ils veulent que, comme on est canadien, que le Canada comprennent puis continuent d'envoyer de l'aide parce que ce qu'ils vivent, c'est affreux puis c'est la pire affaire au monde. Mm. Fait que quand ils voient la courroie de transmission entre eux puis les gens qui nous écoutent en ce moment. Mm.
Est-ce que tu sais ce que tu vas chercher comme image quand tu arrives quelque part? Est-ce qu'il y a des barèmes que tu t'es déjà mis ou c'est vraiment naturel pour toi d'arriver, t'as l'œil, tu sais exactement ce que tu veux rapporter?
Non, mais tu sais, j'ai comme des... je me mets un peu des canevas visuels,
oui.
Mais c'est... Puis on détermine... Tu sais, comme en Ukraine, j'ai travaillé avec Isabelle Haché, puis on travaille... Tu sais, on a une complicité, on sait ce qu'on fait. Elle est ultra talentueuse. Fait qu'au fur et à mesure... Tu sais, parce que nous, il n'y a personne qui nous analyse ça live, là, qui dit « voici ce qui se passe aujourd'hui ». On vit les événements en direct. Puis comme il y a très, très peu de médias, puis que les armées ne communiquent pas leur intention parce qu'ils se cachent... c'est comme une game de hockey. Le coach ne va pas dire...
le jeu de l'autre.
Exactement. Alors, on n'a pas d'informations. Fait qu'on le découvre au fur et à mesure. Fait que là, au fur et à mesure, c'est là que le reportage se construit. Isabelle et moi, ma partenaire journaliste ou d'autres, on va communiquer en direct la direction qu'on va prendre à notre reportage. Puis c'est comme ça qu'on va monter ça. Puis les photos, ils viennent à moi parce que c'est fort, une guerre. Là. C'est, toutes les émotions sont réunies, là. T'sais, la peur, c'est tragique, là, la mort. Il y a des explosions, c'est très, très puissant comme image. Puis nous, ben, t'sais, on ne veut pas écœurer le lectorat avec des cadavres, fait qu'on va y aller sur l'émotion des vivants. Fait que c'est comme ça qu'on fait un reportage.
Quand tu prends une photo, est-ce que tu le sais tout de suite? Ah ouais, ça, c'est la photo. Ou si c'est par après, avec le recul, que tu regardes ce que tu as pris dans la journée, dans la semaine, je sais pas, puis que c'est par après que tu sélectionnes les meilleurs ou tu le sais tout de suite?
Ben, je sais pas mal tout de suite. Quand il se passe de quoi de fort, là? Tu sais, comme en Syrie, là, le point fort, c'est que le régime de Bachar al-Assad, avant de quitter, là, ils se sont réfugiés en Russie, entre autres, ils ont tué plein de prisonniers politiques, okay, à la prison. Puis là, les familles cherchaient, puis ils ont réuni ça dans une morgue temporaire. Puis là, toutes les familles étaient là à essayer d'identifier les membres de leur famille. On a eu une information très tôt le matin sur le terrain, puis on s'est rendu à la morgue en sachant pas vraiment c'est quoi qui se passait, puis qu'est-ce qui allait se passer. Puis donc, j'étais avec les familles quand ils identifiaient leurs proches. Tu sais ça, Max, c'est tellement puissant comme moment. Tu sais, fait que t'as juste besoin de faire une bonne photo, puis t'en as une maudite bonne, puis t'as une bonne histoire. Mm. Tu sais, je vous le raconte, vous savez que c'est puissant. Ces familles-là, tu sais, qui ont creusé dans la prison pour essayer de trouver des salles secrètes pour trouver leurs disparus depuis des années, des disparus, des prisonniers. C'était une dictature épouvantable.
C'est
du désespoir.
Hein?
C'est du désespoir. Je suis tombé dans un trou, moi, en prison. Je me suis blessé une jambe, un bras. C'était le désespoir. Puis, donc, c'est des moments tellement puissants, tellement forts que tu sais que ça va être bon, là, ça va être une bonne photo. Mais il y a des fois que je fais des clics, puis le soir, quand j'arrive, je regarde, je fais « Oh my God, je l'ai pas vu celle-là, elle est extraordinaire. » Mais
y a-t-il un moment où tu as décidé de ne pas publier une photo?
Oui. Oui. Les histoires de morgue, de cadavres, tu sais, il y a des photos qui seraient vraiment puissantes parce qu'elles sont incroyables. Mais le but, là, c'est de publier dans la presse puis d'aller intéresser des lecteurs.
C'est toujours ta ligne en tête.
Ouais. Si je te mets une photo dégueulasse, ben, tu ne vas pas la regarder, le reportage, tu ne vas pas lire les textes. Mmh. Fait que je manque ma cible.
Je ne regarderai probablement pas la photo deux fois non plus.
Exactement. Fait que c'est comme si je vous parlais en ce moment que les gens ils changeaient de poste parce qu'ils trouvent ça trop intense. Je manque ma cible. Je suis un communicateur. Fait que ce que je veux, c'est que les gens ils écoutent les histoires puis qu'ils les sentent interpellé par ça. Fait que oui, mais je me suis fait censurer par mon journal une fois pour un peu la même raison. C'était une crise alimentaire au Niger. Puis ça faisait les principales victimes, c'était des enfants. Mm. OK? C'était terrible.
Là, ça pas être beau, ça.
Ah, c'était épouvantable. Puis j'avais une photo incroyable. L'enfant était vivant. Puis c'était tellement dramatique que la presse s'est fait, hey, on va pas la jouer, celle-là. Ça va trop toucher les gens, tu sais, au cœur. Fait que ça fait que... Puis je comprenais, tu sais. Mm. Encore une fois, pour les mêmes raisons, je vous disais, si tu...
La ligne est mince, tu veux toucher les gens au cœur, mais tu veux pas être traumatisé non plus.
C'est ça, ouais. Mais ça, c'est dans mes cadrages, dans mon choix, tu sais, qu'on réussit. C'est sûr qu'avec le temps, ça fait une couple d'années, je fais ça. Ça fait qu'avec le temps, ben, je suis capable de mieux... jouer avec cette fine ligne-là.
C'est spécial, là, mais rapidement, y a-tu des règles? nous, ici, on ne photographie pas n'importe qui, là, dans le sens qu'on dirait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas, il faut qu'on demande la permission, ou y a-tu cet enjeu-là quand on parle de photojournalisme ou pas du tout?
Ben oui, il y a certainement un enjeu. Ben, on va mettre tout de suite, au Québec, il n'y a aucune loi qui interdit de faire des photos. Ce qui est, s'il y a une jurisprudence, c'est la publication. Ça veut dire que tu marches dans la rue seul, je fais une photo de toi, puis je dis, tu sais, je mets un titre qui serait où tu serais pas en accord avec le titre, tu serais en droit de, tu sais,
de poursuivre
ou quoi que ce soit. En termes du photojournalisme, si c'est un événement public, un feu, accident, tout ce qui est gros, manifestation, j'ai pas besoin de demander de permission. Bon, pour ce qui est de la guerre, je parle toujours aux gens qui sont sur mes photos. Puis, ouais, tout le temps. Oh, oui. Ben oui, parce que je dois raconter l'histoire de la personne. Fait que j'ai pas le choix de parler. Mm. Puis, ça arrive presque jamais que les gens ils veulent pas. Parce qu'ils ont vraiment un désir de raconter leur histoire.
L'expression « une image vaut 1000 mots », c'est-tu vrai, ça?
Non, c'est 2000 mots.
Mm.
Ça, c'est très puissant parce qu'on le voit même que, tu sais, dans les Facebook, Instagram, là, tu sais, presque 10 ans, la photo, la vidéo n'était pas tant en vedette que ça, mais ils se sont vite rendu compte que l'image était plus puissante que les mots. Mmh. C'était une meilleure vitrine. C'était une meilleure accroche. Fait que oui, la photo vaut 1000 mots, mais c'est extraordinaire quand tu as 1000 mots qui suivent aussi.
Les deux ensemble.
Exact. Puis nous, notre philosophie à la presse, puis tu sais, les partenariats que j'ai avec les journalistes avec qui je travaille, c'est ça, c'est cette symbiose pour offrir une expérience photo-vidéo, mais surtout photo et texte puissant. Puis ça, ben là, c'est sûr que ça prend une autre dimension. Mais tu sais, Yvon Deschamps, il y a une super expression. C'est « on veut pas le savoir, on veut le voir ». Puis, tu sais, c'est tellement vrai aussi, tu sais, c'est encore vrai, tu sais, encore plus aujourd'hui, même si on est inondé d'images, les images ont quand même un poids.
Ben oui, ça parle, absolument. Et trouves-tu qu'on est rendu insensible à ces images-là, justement? Je veux revenir sur
ça. Oui, absolument. Oui, il y a une lassitude parce que, tu sais, il y a pas longtemps, on avait, tu sais, ici, on aurait eu la une du Journal de Québec, la une du Soleil, puis on aurait écouté les nouvelles hier soir. Mm. Mais là, aujourd'hui, on est, tu sais, à tous les jours,
on est surstimulé.
Fait que, tu sais, juste Gaza, on va prendre Gaza, là. C'est terrible. Les images qui sont là sont affreuses, là. Mais je les vois plus, là. Je suis pas capable de décrire une photo que j'ai vue dans les dernières semaines.
Oui, c'est plate,
je deviens toutes mélangées dans mon esprit parce qu'on en voit beaucoup. Mais c'est notre rôle, comme moi en ce moment, c'est de fixer le temps sur mon travail puis sur mes images. Puis ça, bien, c'est en parlant, en l'écrivant, en revenant sur le sujet. Fait que ça évolue, mais l'image, elle perd pas de son importance.
En passant, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on est avec Martin Tremblay, qui est photojournaliste à la presse, qui, mon Dieu, a couvert des terrains de guerre assez intenses. Qu'est-ce que t'as? Combien t'as couvert d'endroits de guerre?
Ben, tu sais, j'en ai plusieurs, j'ai fait plusieurs fois, là. Fait que, ben, plus de 10, 15
ben, c'est fou, conflits. Ça me fait... Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la photographie? Parce que là, on parle du fait qu'on est rendu insensible, mais est-ce que c'est porté à disparaître avec le fait qu'avec nos téléphones, on a des super belles caméras, n'importe qui peut prendre n'importe quelle photo n'importe quand? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est un danger au futur de ton métier ou t'as pas cette impression-là?
Ben... Le futur de la photographie, c'est la prémisse de ta question, bien, il est plus qu'assuré. On a tout un appareil photo dans nos poches.
Mm.
Fait que c'est plus qu'assuré. On dit on est surstimulé parce qu'il y a plus d'images. Donc, c'est jamais fait autant d'images. Fait qu'on peut, tu sais, à cette question-là, c'est non, vraiment pas. Et c'est extraordinaire ce qui se fait en photo en ce moment, puisqu'on est tous photographes.
Ouais.
Par contre, pour le métier de photojournaliste, c'est, il y a une crise du financement parce qu'on a vécu une crise des médias. Bien, on vit une crise des médias.
Il ne doit plus en rester beaucoup qui font du terrain comme toi autant.
Oui, il y en a de moins en moins. Oui, parce que ça coûte très cher. Tu sais, juste pour vous dire, ce qui coûte le plus cher dans une couverture, dans les frais de voyage, c'est les assurances.
D'un coup, qu'il t'arrive quelque chose.
Ben oui, c'est ça.
Ben oui.
Puis se faire sortir de là, puis tout ça. Fait que c'est des, tu sais, c'est des gros investissements. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais tu sais, dans le monde, il y en a encore. Tu sais, j'ai comme en Syrie, il y avait, tu sais, je travaillais avec des photographes du New York Times puis d'autres médias européens. Mais tu sais, mais il n'y en a jamais eu tant non plus. Mais c'est ça que, pour répondre à ta question, oui, en ce moment, c'est, le métier est menacé, mais ça fait 20 ans que je suis dans le métier, puis ça fait 20 ans qu'on
dit
ça.
Qu'il est menacé. Ouais, ça. Écoute, on a dit ça avec la radio, on dit ça avec à peu près n'importe quel pan des médias, là.
Tu sais, on est... Tu sais, je pense que les médias, on s'adapte, puis des fois, ça prend un certain temps, mais, tu sais, nous, la presse, on n'imprime plus depuis 2012.
Ouais.
On est entièrement numérique, puis ça va super bien en ce moment. Fait que, on pensait disparaître il y a moins de 10 ans. T'sais.
Vous adaptez finalement, c'est
exactement.
Un peu ça.
Ouais.
T'es écrivain, Martin. Écrivain, roman jeunesse qui s'appelle Elliot Black en zone de guerre. Ça vient d'où ça? Pourquoi t'as décidé de te mettre à écrire?
En fait, c'est la maison d'édition Les Malins qui m'ont fait une proposition quand je suis revenu d'Ukraine. Justement, ils m'ont dit, on chercherait à construire une série de livres sur la guerre, puis avec un photographe, fait que ça t'intéresserait-tu? Fait que parce que moi, j'écris pas, je suis un photographe. Puis là, c'était un roman juste en mots. Fait qu'on a commencé à développer. J'écrivais un peu dans la presse quand même, là, mais fait que j'ai commencé à développer ça. Puis vite, j'ai fait, quelle extraordinaire occasion. Moi, j'ai des ados aussi, d'aller chercher un public qui s'intéresse moins à l'actualité internationale, qui sont moins exposés aux guerres et tout ça. Fait que là, pour moi, c'était une super opportunité de raconter ça, mais sans leur faire de cauchemars, sans les écœurer, mais sans non plus rendre la guerre belle. Fait que, tu sais, j'ai trouvé
c'est
juste...
C'est un beau format, là.
Oui, c'est un beau format, puis ça me permet de raconter ces histoires-là aux jeunes, puis de les sensibiliser dès maintenant à suivre l'actualité, puis aussi au métier de l'information de façon globale, que la désinformation, l'intelligence artificielle, les médias sociaux, c'est d'avoir l'information vérifiée, vérifiable. Des gens qui vont sur le terrain, et qui, comme moi, qui témoignent de ce qu'ils voient de première main. Fait que ça, c'est ça l'important que je suis capable de communiquer avec ce projet-là. Et là, mon deuxième livre sort
ça
justement...
Ça s'en vient, oui.
Oui, 19 novembre, là, pour le Salon du livre de Montréal. Bien, j'étais au Salon du livre de Québec cet hiver. Je vais revenir avec plaisir. Fait que, ouais, deuxième, là, ça va se passer au Congo. Fait que mes romans, tout est vrai dedans, le
ce
fond.
Ce sont des faits, OK.
C'est tous des faits, les lieux. Tu sais, comme l'Ukraine... Le début du roman, c'est mon arrivée en Ukraine avec ma valise, mais là, je le fais vivre à mon personnage qui s'appelle Elliot Black. Fait que j'ai juste inventé une fiction, c'est une aventure qui se passe en Ukraine avec lui, il se fait des amis ukrainiennes puis, ou au Congo. Mais le fond est tout vrai. C'est-à-dire, c'est comme un gros reportage, mais personne ne s'en rend compte. Mais tout ce qu'il y a là-dedans, c'est issu de mes histoires. C'est issu de ce que je viens de vous parler, dans le fond. Fait que ça me permet aussi d'aller plus en profondeur sur ces sujets-là.
Puis le fait que ce soit jeunesse, on parle de quel âge à quel âge? Mettons, moi, je peux-tu lire ça puis trouver ça bon ou c'est vraiment pour les plus jeunes, là?
Non, quelqu'un me dit que c'est le livre jeunesse que tous les adultes devraient lire.
Ah oh, ouais, OK.
Tu peux, oui. Parce que c'est ça, il y a vraiment un fond. Puis aussi, ça donne beaucoup de coulisses du métier de journaliste parce qu'Eliott va devenir un photographe. Il va être super moderne. Il va aller en Ukraine, il va voir ce qui se passe, puis il va prendre son téléphone, puis la vieille caméra de son père, puis il va commencer à faire des photos pour montrer ça. Puis
c'est un peu ton histoire?
J'ai vraiment... Ce personnage-là, c'est pas moi, mais sur cette partie-là, oui, c'est exactement ça. Puis il va utiliser la photographie pour dénoncer ce qu'il voit, puis sensibiliser. Puis il va utiliser les médias sociaux pour devenir lui-même un reporter de guerre. Ouais.
Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment le fun. Le troisième, es-tu en route? Est-ce qu'il y a une suite qui s'en vient?
Oui.
Est-ce qu'on travaille?
Oui, oui, j'ai commencé à scénariser. Ça se passe en Syrie. Donc, parce que j'étais là. Je veux que ça soit contemporain. Je veux que ça soit des conflits qui sont récents, qu'on est capable de s'identifier puis qui ont une valeur aussi.
On se perde pas trop, là. Ouais.
Exactement. Ouais.
Je trouve ça vraiment trippant, Mike. Je sais pas. Moi, je pourrais parler pendant des heures. Je vois l'heure avancer. As-tu d'autres questions? Es-tu satisfait?
On a du temps. Je sais pas vers où tu voulais aller. Là. On peut prendre un autre 5 minutes, si tu veux.
Ben, en fait, assurément, ce que j'allais dire, c'est que quand le deuxième sortira, le troisième, le quatrième, peu importe, n'hésite pas à lever la main. Je trouve que c'est super intéressant. Puis si tu retournes en mission prochainement, tu as des choses à nous raconter. J'ai envie qu'on puisse t'ouvrir la porte parce que moi, ça me fascine. Puis j'ai le sentiment qu'on a tellement couvert un peu ton métier de façon générale, mais on pourrait prendre conflit par conflit, puis tu aurais sûrement plein d'histoires à nous raconter au final. Là.
Oui, c'était comme, mettons, je parlais le troisième, c'est en Syrie, mais tu sais, quand je suis arrivé en Syrie, les rebelles sont rentrés par le nord du pays. Tu sais, Alep, je sais pas si c'est une ville que vous connaissez, parce qu'il y a eu quand même une guerre civile de 13 ans. Là. Mm. Le pays est détruit. Là. J'ai jamais vu ça. Là. Alors, quand les rebelles sont descendus, la presse m'a demandé de me rendre avec Isabelle Haché, que je vous parlais, ma collègue chroniqueuse. On est parti de Montréal, on s'est en allé au Liban, et là, on a traversé la frontière. Quelques heures avant, le pays était tombé aux mains des rebelles. On traverse la frontière et là, il n'y a personne. Tout ce qu'on voit, c'est des tanks fumants, des cadavres à terre, des artefacts de guerre. Puis là, on roule avec une voiture puis un chauffeur qui est venu chercher à la frontière. Puis là, on voit que la guerre est terminée, mais c'est comme fumant. Là. Et là, on arrive dans la capitale, à Damas, et c'est 50 ans de dictature. Là. Ça veut dire que c'est des générations. La plupart des gens n'ont rien connu d'autre.
Oui.
Sont dans la rue puis ils manifestent leur joie.
Oh.
Là, je suis au milieu d'une foule. Moi, j'aime ça travailler. J'aime ça travailler proche du monde. Puis je plonge dans la foule, je suis proche. Puis là, on commence à tirer mes caméras, mon linge. Là, je fais OK, là, je suis en danger. Puis moi, je parle pas arabe. Fait que là, je suis seul. J'ai pas de fixeur avec moi. Ils sont loin. Là, je fais OK, là, ça va pas, mes affaires, faut que je sorte. Là, j'essaie de me sortir de cette foule-là. On m'en empêche. Là, je fais OK, là, je suis comme dans le trouble. Là. Et là, les rebelles sont là, puis ils tirent des coups en l'air de joie, mais ils sont là, là avec leurs barbes. C'est des rebelles islamistes, le Ben Laden, là, ça vous donne une idée. Là. Alors, je me dis OK, là, je suis dans le trouble.
Tu files pas, là.
Là, je vois un jeune, un ado, qui fend la foule, puis s'en vient vers moi, puis arrive avec moi, à côté de moi. Personne ne parle anglais en Syrie, parce que c'est une dictature, puis il était fermé. Puis là, il me dit qu'il y a un anglais très sommaire. Là, je traduis, il me dit « Avez-vous besoin d'aide, monsieur? » Là, je le regarde, je fais « Est-ce que j'ai besoin d'aide? » Il me dit « Non, vous n'avez pas... » Du tout, là, vous n'avez pas besoin d'aide. Mais je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit « Non, les gens sont tellement fasciné que tu sois avec eux dans la foule, puis que tu vives ça avec nous.
Ils te célébraient.
Ils me célèbrent.
Mais voyons donc.
Le revirement de situation, là, je dis au monde que je suis tellement honoré de vivre ce moment historique avec eux, parce que c'est ça que je vivais. C'est ça, là, ce qui est incroyable dans mon métier, c'est que j'étais à un moment en Syrie qui va être dans leur livre d'histoire pour toujours. Je suis là.
Martin, suggestion, là, parce que ça me fascine. Là. Il y a un livre qui existe, c'est « Cœur policier » que ça s'appelle. Ça s'est fait sur plein d'autres métiers, mais en gros, c'est 30 histoires, les histoires les plus marquantes de la carrière de chacun des policiers qui écrit dans ce livre-là. Fait que c'est comme des courtes histoires, me suivras. Il faudrait vraiment que tu fasses ce genre de livre-là. Ce genre de livre-là où, par place que tu as fait, par guerre que tu as vécu, que tu puisses nous raconter, je trouve, ces petits moments-là qui ont marqué ta carrière, question qu'on puisse le vivre à travers tes yeux, mais à travers ton écriture. Même si tu n'es pas écrivain de base, moi, je trouve que c'est un savoir, les gens qui font des métiers particuliers comme toi, c'est un savoir qu'on n'a pas assez. Tu sais, aujourd'hui, les nouvelles, je veux dire, c'est éphémère. Ce qui s'est publié hier dans la presse, c'est déjà loin. Là, on est ailleurs, ça va vite. Même les images, je veux dire, ça va vite. Fait que j'ai l'impression...
Ce livre-là, accompagné de photos, c'est incroyable.
C'est exceptionnel, sérieusement. Je soumets l'idée. Je ne demande même pas un pourcentage.
J'en prends bonne note. Non, mais c'est une excellente idée. Mais je me sens comme... Tu sais, je ne suis pas si vieux. Fait que je me sens comme pas encore... assez...
Il t'en reste à vivre.
Oui, c'est ça, exact. Mais oui, c'est un projet que je pourrais faire. Merci de la suggestion.
Honnêtement, je trouve que tu livres vraiment bien ce que tu vis au quotidien, puis ça se sent que tu es passionné, je tiens à te le dire. La porte va toujours être ouverte. Martin Tremblay, photojournaliste à la presse depuis plus de 20 ans, qui fait des reportages terrain en milieu assez difficile. Vous venez d'arriver, vous comprenez pas trop ce qui se passe, là. BLVD.fm, on va mettre ça là, on va mettre ça aussi sur la chaîne YouTube de Boulevard. Martin, merci d'être passé.
Merci de l'invitation.
Merci, Audrey. Au retour, on se discute de rififi autour de la Constitution québécoise. Ça brasse entre la CAQ et le Parti québécois. Le point de Max.